Y a-t-il?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non. Oui, on...
Bonjour et bienvenue à l'émission Cinérama. Bonjour Manu.
Bonjour Vincent.
Et aujourd'hui, nous sommes que deux. Nous sommes que deux parce que Marine est restée à Cannes. Du coup, je l'ai laissée là-bas. Moi, je suis revenu avec notamment un reportage. On écoutera bien, par exemple, que fait un exploitant de cinéma quand il va à Cannes. Et là, en l'occurrence, eh bien, ce sera le responsable du cinéma Utopia de Montpellier. Et puis, je vous ferai aussi un petit blind test spécial, on va dire 70e anniversaire de Cannes. Il s'agira de découvrir au travers d'extraits sonores, eh bien, de découvrir le titre de films qui ont été palmés à Cannes. Et j'en ai pris un par décennie. Voilà, ça c'est pour le volet Cannes. Mais toi, tu es resté face aux salles traditionnelles.
Oui, puis j'ai vu des films, on va dire, relativement classiques et grand public, dont évidemment le nouveau Pirates des Caraïbes, Le Secret de Salazar, et puis un manga, Sword Art Online, de Tomohiko Ito.
Et on commence avec Jack Sparrow.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Jack Sparrow, tu connais ce pirate?
Seulement de nom.
Trouve Sparrow pour moi et transmets-lui un message de la part du capitaine Salazar. Dis-lui qu'il tient rendez-vous avec la mort. Tu peux lui dire de ma part, je t'en prie.
Alors évidemment, la sortie d'un nouveau Pirates des Caraïbes, qui fut à l'époque un succès surprise de 2003, est un peu éventée. Alors pourquoi surprise déjà? Parce que les films de pirates, surtout les plus récents, ont toujours été des fours au box-office. Il n'y a qu'à se souvenir des échecs douloureux de Pirates de Polanski et de L'île des pirates de René Harlin. Alors 14 ans plus tard, et 3 suites rentables, Jack Sparrow, le célèbre pirate, revient hanter les studios Disney pour un cinquième opus que l'on redoutait plus qu'on attendait, d'autant qu'il est réalisé par un duo de Norvégiens, pas parce qu'il est réalisé par un duo de Norvégiens, Joakim Rønning et Espen Sandberg, coupables de l'épouvantable néo-western Bandidas produit par Besson. Alors, malgré tout ce qu'on peut penser de la franchise, les trois premiers portent bien la griffe de Gore Verbinski, artisan de qualité qui brille par ses qualités techniques et surtout une folie douce qui contamine ses films. Il n'y a qu'à voir le récent A Cure for Life ou l'excellent Lone Ranger. Alors Johnny Depp incarne donc toujours Jack Sparrow et rien n'a véritablement changé. Il est toujours accro au rhum, il a la justice sur le dos, ainsi que son équipage qu'il n'arrive pas à payer. Bref, le pirate est toujours aussi filou, instable, alcoolique. Sauf que rien de neuf n'est apporté à un personnage qui devient extrêmement poussif. L'interprétation régressive borderline du début laisse place quand même à un cabotinage effréné, épuisant du début à la fin. On se demande même s'il est pas... Il y a eu des rumeurs comme quoi il était vraiment...
comme ça, dans la vie.
Non, bourré sur le tournage, apparemment. Il était un peu désintéressé par le film et que ça a été un peu difficile de le diriger.
On parle de Johnny Depp. Hein,
oui, de Johnny Depp, évidemment. Alors, on est lassé des sempiternelles mimiques, de ce jeu un peu insupportable, de ce corps élastique dont Johnny Depp a su par le passé en faire des merveilles. Mais là, tout devient, on va dire, caricatural. Alors, le pirate adoré du public n'amuse plus beaucoup, d'autant que le scénario recycle de manière un peu trop voyante les récits antérieurs. Alors, Jack Sparrow et ses compagnons se retrouvent confrontés à un ennemi qu'il a jadis combattu, le capitaine Salazar, qu'on a entendu donc dans la bande-annonce, qui a sombré dans le triangle des Bermudes. Revenu d'entre les morts, le redoutable capitaine espagnol est bien décidé à se venger en traquant Sparrow ainsi que tous les pirates de l'océan. Le seul moyen pour Sparrow de vaincre Salazar est de retrouver le trident de Poséidon, artefact légendaire qui donne tous les pouvoirs sur les océans. Alors un argument bien mince qui peine à faire illusion. La richesse du récit du premier opus masquait sans problème une esthétique un peu de part d'attraction, ce que c'était au départ de toute façon et toujours d'ailleurs. Là, on ne voit plus que ça. En 30 minutes, tous les enjeux sont exposés et répétés au cas où on aurait une absence. Il n'est pas utile d'avoir vu les autres films pour suivre ce film d'aventure poussif, mais souvent distrayant grâce à un rythme endiablé et une avalanche de morceaux de bravoure parfois impressionnants, bien qu'isolés du récit, notamment une attaque de requins zombies particulièrement jouissive. Oui, oui. Alors, surtout en 3D, c'est assez impressionnant et bien fait. Et pour une fois, la 3D est très, très bien intégrée, je trouve, à ce type de film. Et puis, un final spectaculaire où les auteurs citent ouvertement Moïse avec l'océan qui s'ouvre en deux. Là aussi, c'est assez impressionnant. Alors, ne cherchez aucune subtilité, aucune nouveauté, mais l'ensemble se visionne sans déplaisir. À aucun moment, ce pirate des Caraïbes ne se prend au sérieux, flirtant plus que les autres, au plus avec la parodie. Alors, les effets spéciaux sont assez épatants. Le climat gothique mêlé au cinéma d'aventure bondissant à l'ancienne fonctionne plutôt bien. Alors, on va dire, on est juste venu faire un tour de Grand 8 et dans un sens, on en a pour son argent. C'est un plaisir éphémère, aussi immédiat qu'oubliable dans l'heure qui suit. Mais c'est nettement mieux que le 4, dont je ne me souvenais absolument pas d'avoir vu. Et mon fils m'a bien confirmé que je l'avais vu jusqu'au bout.
Eh bien, on te reposera la question dans 2 ans. Est-ce que
dans 2 heures, peut-être, hein, dans 2 heures. Hein.
En tout cas, Jack Sparrow, donc le pirate des Caraïbes, eh bien, c'est un film qui sort le 24 mai. Et on passe à l'intermède cannois.
C'est un état d'esprit.
Cinérama.
Voilà.
Chronique. Invité et nouvelle du 7e art.
Je t'en prie, cache ta joie.
Le 70e festival de Cannes va s'achever le 28 mai. C'est un grand rendez-vous effectivement international de cinéma. Tout le monde s'y croise. Il y a les professionnels, il y a les producteurs. J'ai pu croiser un certain nombre d'exploitants. Eux, ils vont voir des films pour ensuite en faire la sélection dans leur cinéma et le proposer à tout le monde. Alors, j'aurais pu en choisir qui viennent de partout en France. Il se trouve que j'en ai croisé un. C'est celui du cinéma Utopia de Montpellier. Ce sont 3 salles. Et c'est Arnaud Clapier qu'on va écouter maintenant. Et bon, j'en ai profité aussi pour lui poser une question sur la polémique Netflix. Est-ce que le Festival de Cannes doit proposer en compétition un film qui ne passe qu'à la télé. Voilà, on passe un peu plus de 10 minutes avec Arnaud Clapier qui est exploitant de cinéma.
Pour 3 semaines, Cannes est devenue la capitale du cinéma international. Et le festival, projeté avant-guerre, a rendu à Cannes l'animation des temps heureux.
Bonjour Arnaud Clapier, on est présent ici au 70e Festival de Cannes. Vous êtes le responsable du cinéma Utopia de Montpellier. Et la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que vous venez faire ici à ce Festival de Cannes? Et en plus, c'est pas la première fois que vous venez. Hein.
Non, bien sûr. Donc moi, j'y viens depuis, quelques années. Pas 70, mais quand même, ça a commencé à chiffrer peut-être une quinzaine d'années. Ça doit être dans ces eaux-là. Donc nous, on vient faire notre marché en fait. On sait qu'à Cannes, toutes sections confondues, on va nous présenter un nombre important de films et surtout un nombre très important des films qui vont marquer notre programmation sur au minimum les 6 mois qui viennent. Voilà, donc il est important qu'on les voit, important. On pourrait les voir maintenant autrement, mais c'est vrai que là, il y a une espèce de concentration qui fait que, à raison de 4-5 films par jour, en 10 jours, on peut en voir un certain nombre et commencer à faire des choix sur la programmation à venir.
Comment ça se passe quand on est exploitant? Quel œil on doit avoir finalement quand on est présent ici à Cannes? Et comment on fait ses choix?
Alors déjà, il faut en avoir deux. Deux yeux, il faut arriver à les ouvrir. Des fois, c'est le plus dur, surtout quand on est au 5e ou au 6e film de la journée. Quel œil on doit avoir? Je ne sais pas. C'est un petit peu comme notre boulot, ça, par contre, de toute l'année. On voit les films, on est n'importe quel spectateur, quoi qu'il en soit. On voit juste un peu plus de films que la moyenne, mais on est juste là pour nous prendre du plaisir, essayer d'évaluer des potentiels commerciaux, des potentiels de fréquentation possible de certains films, des choses comme ça. Mais en même temps, je dis ça et puis on peut se planter complètement. Enfin voilà, on essaye en tout cas, nous, d'ouvrir les yeux et de commencer à faire les bons choix.
Vous avez vu 2 films aujourd'hui. Vous avez vu un film iranien et puis le film de Mathieu Amalric, Barbara. Ces 2 films ont été applaudis pour des raisons différentes, j'imagine. Enfin, parce que pour l'un, il y avait quand même le réalisateur et toute l'équipe du film. Donc ça, ça mobilise un peu le public. Mais est-ce que pour vous, ça, par exemple, c'est une indication?
Non. À Cannes, c'est rarissime qu'on n'applaudisse pas la fin d'une projection. Donc en soi, c'est pas une indication. C'est vraiment au feeling, nous, sur le produit fini, sur le film qu'on voit. Les 2 exemples sont vachement intéressants parce qu'effectivement, ça fait 2 films et c'est 2 films, 2 très très beaux films, je trouve. Et j'ai dans l'idée que le film iranien, un homme intègre. Alors je sais pas s'il est distribué, mais s'il l'est pas, il va l'être, c'est à peu près certain. Et vraisemblablement, c'est un film qu'on n'aura pas forcément trop de mal, nous, à proposer, parce qu'il est très carré, très, très tenu. Il va parler à énormément de gens. C'est un de ces films iraniens qui ont vraiment une valeur universelle dans leurs propos, tout en racontant des choses ultra spécifiques à la société iranienne. C'est vraiment très, très chouette, quoi. Mais on sait que sur ce type de film, vraiment, ce sera normalement pas très compliqué à expliquer, à raconter aux spectateurs et à vendre dans les salles de cinéma. Barbara, paradoxalement, qui va être une relativement grosse sortie à l'automne, qui est produite et distribuée par Gaumont, ce qui n'est pas rien, avec, alors, est-ce que c'est vraiment des grands noms aujourd'hui, des gens très bankable, Mathieu Amalric, Jeanne Balibar, je ne sais pas, mais ils sont de toute façon plus connus que le réalisateur iranien dont on parlait. Et paradoxalement, c'est un film qui, dans sa forme, dans sa narration, est un peu déstructuré. C'est une histoire de mise en abîme. Et à mon avis, ça va être plus difficile dans le sens où les spectateurs risquent d'être perdus devant un objet qui est réellement magnifique, hein, visuellement, le son, enfin il y a un travail d'écriture, de photographie et de son qui est juste époustouflant. Mais en même temps, comme il fallait qu'il évite les pièges du biopic, il fait autre chose, quoi. C'est vraiment une évocation libre, artistique, hein, dans le sens fort du terme, et que je pense beaucoup vont trouver un peu trop arty, un peu trop perché pour eux, quoi. Donc voilà, c'est vraiment, et ça c'est très bien d'avoir pu le voir en amont, parce que sur le papier sinon, se voir marquer Barbara, Mathieu Amalric sorti par Gaumont, on pouvait s'attendre à une espèce de ressucer un télo du film sur c'est pas Sylvie Vartan, c'est Dalida, voilà. Oh la vache, ça y est, là je viens de me fâcher avec une bonne partie de mes spectateurs, c'est pas grave. Donc il va falloir qu'on s'attende à défendre de façon très très différente, probablement différente de ce qu'on pourrait s'attendre donc juste à l'énoncer en lisant la présentation, quoi.
À Cannes, les vedettes se suivent et ne se ressemblent pas. Invité français du festival, L'eau vive a valu à Jean Giono, André Debarre et François Villiers les honneurs de la Croisette, où Jacques Tati et son jeune interprète Alain Bécourt ont fait quelques heureux. Autre nom pour les amateurs d'autographes, Charles Boyer, Michel Morgan, Arletty, Félix Martin. Autre rencontre, sur la terrasse de leur hôtel, Charles Boyer et Yul Brynner. Mais le moment à sensation devait être l'arrivée de Jane Mansfield, le buste, et de son mari, le muscle. Et il a fallu du muscle aux forces de l'ordre pour leur éviter l'étouffement.
Est-ce qu'on peut peut-être revenir sur Cannes? Qu'est-ce que c'est Cannes pour un réseau, par exemple, comme Utopia? Parce que, alors, Utopia n'est pas présent dans toutes les villes, mais présent sur... voilà, il y a Avignon, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Saint-Ouen. On sait que c'est un cinéma plutôt militant. Cannes, c'est plutôt le côté quand même paillette. Malgré tout, il y a du cinéma d'auteur. Enfin voilà, comment finalement les équipes d'Utopia s'y retrouvent là-dedans?
Ah ben nous, on s'y retrouve très bien. D'abord, c'est toujours un grand bonheur de vivre sur la bête, se dire qu'il y en a qui sont là pour dépenser et qu'ils nous offrent le cinéma, le Festival de Cannes. D'une certaine façon, nous ici, on paye notre logement, on paye notre bouffe. Après, sur le côté paillette de la Croisette, c'est juste insupportable. On est d'accord. C'est le paradoxe absolu, mais qui est soulevé tous les ans, et c'était encore plus vrai les années où étaient présentés des films des frères Dardenne, ou même l'année dernière le film de Ken Loach. Mais je pense que nous, on doit avoir vraiment la même démarche, d'ailleurs, que Ken Loach. Moi, ce type, j'ai pour lui un respect et une admiration. Une reconnaissance maintenant réelle, dans la mesure où quand ce gars-là fait les films qui lui semblent importants de faire, il va à Cannes parce que c'est important de les montrer et qu'il aura que ces films-là, à cet endroit-là, auront une audience qu'ils n'auront jamais autrement. Et quand on lui donne un micro, c'est pas pour dire merci papa, merci maman, merci mon producteur, c'est pour remarteler le discours qui lui tient à cœur et qui a présidé à la jeunesse du film. Voilà, moi je pense que tous les moyens sont bons à prendre. Cannes existe, Cannes est à vomir en tant que... Je n'oserais pas dire en tant que ville, mais en tout cas le système Croisette, soirée, champagne qui coule à flot, machin, truc comme ça, dont nous on se tient le plus possible à l'écart.
Je précise, vous êtes sobre, hein.
Ouais. Non, non, mais voilà, enfin, c'est vraiment important aussi de garder les pieds sur terre et de, c'est pas parce que là on baigne dans une espèce de petit microcosme qui en plus hein, s'auto-congratule, se regarde le nombril pendant 10 jours. Voilà, nous, enfin, c'est important de nous on y est. On voit les films, on y va pour voir des films. D'ailleurs, on s'extrait assez peu des salles de projection, sauf quand on doit répondre à quelques questions au micro. Mais vraiment, on y va pour bosser, quoi. Et on se conçoit comme des gens au travail ici.
Pour moi, c'est un énorme paradoxe de remettre la Palme d'Or de ce Festival de Cannes à un film qui ne sera jamais diffusé dans une salle de cinéma.
Vous allez avoir de plus en plus de cinéastes patentés, de cinéastes reconnus, Scorsese dans quelques semaines, qui vont tourner pour ces plateformes. Est-ce qu'on va décider que Scorsese n'est plus un cinéaste parce qu'il a fait un film pour Netflix ? Il va falloir trouver une adaptation entre les deux.
Cette année donc, le 70e Festival de Cannes, ils ont fait, à mon avis, ce qui ressemble quand même à une erreur. Dans leur casting, il y a quand même deux films qui ne sortiront jamais au cinéma. Vous, qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'exploitant, en tant que salle de cinéma ?
Pas grand chose en fait, je suis un peu, j'attends de voir. Moi la chronologie des médias c'est pas un truc qui me, c'est pas mon cheval de bataille du tout en fait. De plus en plus il y a des films qui passent à la télé, qui sortent en salle après, et qui pour autant peuvent bien marcher. I Not Your Negro qui est sorti en salle, il était passé à la télé auparavant, il marche très très bien en salle. Donc c'est, voilà, il n'y a pas de corrélation évidente entre le fait qu'un film marche ou pas sur un chat. Donc je pense que effectivement il y a un coup de force hein, de Netflix hein, pour essayer d'imposer quelque chose sur la chronologie des médias qui n'est pas très malin, puisque leurs films par ailleurs vont sortir en salle dans d'autres pays. Notamment le film coréen, je crois qu'il est, ils l'ont signé donc évidemment en Corée et je crois en Angleterre, si je ne me trompe pas, et aux États-Unis. Ma foi, c'est pas la première fois qu'il y a des films qui sont en compétition ou ailleurs qu'en compétition d'ailleurs, qui sont aussi des produits de télé ou des produits d'autres choses. Je me souviens de Petit Quinquin, la série de Bruno Dumont qui était montrée à la Quinzaine il y a quelques années. Là, ils vont faire une soirée spéciale sur le David Lynch, faire une reprise de Twin Peaks parce que la série ressort en télé. Enfin voilà. Le lien, il y a plus de frontières aussi nettes qu'il n'y en avait avant sur la destination des films, quoi.
Mais là, on parle quand même de la compétition. Et j'ai entendu un autre exploitant, donc pas vous, pas Utopia, hein, qui a dit, mais si jamais le John Bong Ho était la Palme d'Or et qu'il ne sortait pas en salle, enfin nous, ça nous enlève effectivement des spectateurs parce que c'est quand même moteur Cannes. On est d'accord.
Non, non, non. Ça, c'est une blague. Ça peut être moteur. Ça dépend, mais ça dépend d'abord du film. Il y a eu un paquet de films qui ont eu des palmes d'or et qui ont eu des carrières désastreuses en salle. Voilà, faut pas fantasmer exagérément là-dessus. Et par ailleurs,
Happy Chapong, Verazita Cool.
Par exemple. Mais c'est pas le pire. Enfin, non, franchement, enfin, faudrait chercher. Mais comment il s'appelait ce réalisateur grec dont, non, mais tu vois, voilà.
Angelopoulos.
Ouais, Angelopoulos. Ouais. Bref, il y en a tout le temps et il n'y a que la Palme d'Or qui fasse vendre un film, éventuellement. C'est même pas dit que ça tombe. Donc la Palme d'Or fait mieux marcher des films qui de toute façon doivent marcher en salle. C'est comme ça, c'est plutôt comme ça que ça marche. Quand tu sors le dernier Ken Loach, quand tu sors, le dernier Nanni Moretti, voilà. Et c'est des films qui de toute façon auraient une belle carrière en salle. La Palme d'Or, ça peut éventuellement leur donner plus de visibilité. Quant à dire que priver les salles de cinéma de la Palme d'Or, ça leur enlève des spectateurs, j'ai du mal à comprendre la logique. Le film sort pas, on prive les spectateurs, enfin tu vois, on prive les salles de rien. Il y aura d'autres films et il y aura des spectateurs pour d'autres films. Je vois pas le...
Ce petit générique, eh bien, on l'entendra dimanche à l'occasion des résultats pour savoir eh bien, ce que le jury a décidé, hein, à qui il va décerner cette palme d'or. Et on va jouer justement avec les palmes d'or, avec tous les palmés depuis eh bien, les années 40 jusqu'aux années 2000, puisque le festival a 70 ans. Donc on écoute un extrait et il faut trouver donc, un titre d'un palmé des années 40.
Da ist niemand mehr hier, sie läuten umsonst. Je ne comprends pas l'allemand.
Ah, vous comprenez pas? Oui, oui. Étranger, étranger. Sie kommen um 10 Minuten zu spät. 10 minutes trop tard.
Déjà parti? Qui donc?
Ses amis. Ils sont venus ici et on le fait, cercueil.
Qu'est-ce que vous dites?
Le cercueil de Monsieur Leim. Un accident, lui renversé par voiture. Dans un peu, juste dans la rue. Devant la maison, tué tout de suite, immédiatement. Il est déjà au ciel ou en enfer.
Alors, Manu, tu n'as pas ta liste de tous les palmés, donc c'est plus simple si on joue avec ça, en fait.
Ouais, je ne sais pas, en fait. J'allais dire le troisième homme, mais c'est
oui,
pas ça.
Oui, c'est ça.
C'est le troisième homme.
Ah, oui, oui,
ah
oui,
bah, j'ai bon. Trouvé, ouais. Quand même.
C'est la Palme d'Or 1949, 49. Sachant que les années précédentes, plusieurs films étaient primés, voire beaucoup. Enfin, il pouvait y en avoir 6 primés d'un seul coup. Et là, voilà, c'était le seul film. Donc, on passe aux années 50 maintenant.
Tu veux que je te dise? Tu crêpes de peur, t'es une gonzesse.
Ah, je te défends de dire ça, hein, si t'étais passé par où je suis passé.
Ah non, dis tes histoires pelopes, hein. T'as peut-être été un homme dans le temps, je dis pas, mais ça remonte à ma grand-mère, ça. Maintenant, tout ce que tu sais faire, c'est de descendre les types dans le dos, là, sans risque. Parce que les risques, tu les aimes pas, hein.
Mais je les aime pas parce que je les connais. Toi, t'es comme ça, tu comprends? Tu fonces sans regarder, tu crois que t'es incassable. C'est facile parce que t'as pas d'imagination. Moi, je guette le caillou ou le trou qui va nous faire sauter.
Alors, c'est français, effectivement.
Bah, je sais pas, c'est un polar français, non? Pas forcément.
Non. C'est Yves Montand, Charles Vanel.
Ah, mais c'est le salaire de la peur.
Voilà, tout voilà. À fait. Palme d'Or 1966. Alors, Palme d'Or 53. Effectivement. Et c'est un des rares films qui a remporté la Palme d'Or la même année et l'Ours d'Or à Berlin. Voilà. Le salaire de la peur de Henri-Georges Clouzot. On passe aux années 60 maintenant.
Si c'était à refaire, qu'est-ce que je ferais d'autre? Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Avoir un copain pendant des mois. Puis c'est la même chose, à force d'être copain, on devient copain. Je m'envoie un télégramme, je vous aime. J'ai aucune psychologie féminine.
Alors là, c'est Trintignant qu'on entend.
Et c'est Un homme et une femme de Claude Lelouch, 66, il me semble.
Oui, et c'est ex-aequo avec Ces messieurs dames de Pietro Germi, cette année-là. On passe maintenant aux années 70. Alors oui, j'ai oublié de dire, hein, chers auditeurs, ne touchez pas votre poste. Alors, je pensais que tu trouverais.
Conversation secrète.
Oui, tout à fait.
Francis Ford Coppola, 74.
Oui, très bien. Film qui fait écho à Blow Up, hein, qui lui avait été Palme d'Or en 67. Là, c'est l'histoire d'un spécialiste, il est dans les agents secrets, et donc...
Fait de l'enregistrement sonore.
Au travers d'une conversation, il détecte le projet d'un meurtre. Voilà. On arrive maintenant aux années 80.
Je trouve qu'on surestime beaucoup le sexe. Je crois que pour la plupart, les gens lui prêtent une importance exagérée. Et je crois fausse l'affirmation que les femmes éprouvent le même désir que les hommes. Je pense aussi que les femmes en ont autant envie, mais pas pour les mêmes raisons qu'eux. Et je me perds un peu. J'espère que vous me comprenez.
Oui. Tenez, ça me rappelle un truc que j'ai lu. On prétend que les hommes, eux, apprennent à aimer la personne qui les attire. Alors que les femmes, elles, sont de plus en plus attirées vers la personne qu'elles aiment.
Alors, le réalisateur était tout jeune, il est américain.
Ah, c'est Soderbergh, oui. Les sexes, mensonges et vidéos.
Oui, ouais. Les Palmes d'Or... 89, parce que je ne l'ai pas noté sur mon petit papier, mais je crois que c'est
89,
ça.
89, oui. Il était palmé par Wim Wenders, qui était président du jury à l'époque.
Tout à fait. Années 90, maintenant.
Si Léniac voyait sa montre, elle lui serait confisquée. Il le savait. Et pour lui, il était clair que cette montre te revenait de droit. Et pour rien au monde, il ne voulait que Léniac mette leurs pattes sur ton héritage, le patrimoine de son fils, alors il décida de la cacher. Comme il n'y avait pas d'autres cachettes, il se les mise dans le cul. Il fallait avoir du courage pour le faire, se la mettre dans le cul. Un jour, Juste avant que la dysenterie le tue, il me donna la montre. J'ai alors caché ce vieux bout de métal dans mon anus 2 années durant. Et après 7 ans d'absence, je pus retrouver ma famille. Et aujourd'hui, cette montre, je suis venu te la donner.
Alors j'aurais pu choisir de nombreux extraits, de toute façon ça aurait été encore facile.
Mais c'était Pulp Fiction de Tarantino, 94.
Oui, bien, allez. Cette fois-ci, c'est la dernière, dernier extrait pour une palme qui a été décernée dans les années 2000. Et là, bah, c'est quelqu'un qui a l'habitude des palmes.
De quel droit interférez-vous avec une décision de justice ?
Lily, commencez d'abord par vous calmer.
Réponds à la question, de quel droit ?
C'est à vous de répondre. Vous voulez nous mettre à dos tous les commerçants et les hommes d'affaires de la région avec de tels jugements ?
Tu entraves le cours de la justice avec de tels actes, Eddie.
Vous n'avez qu'à ainsi me mettre en prison. Qui fera la guerre alors, vous?
Ce que M. Sweeney a fait à Mme Rafferty est inqualifiable. Vous ne pouvez pas le cautionner.
Vous avez raison, mais l'argent de cet homme nous permet d'acheter des armes. Que voulez-vous faire sans armes? Ce n'est pas ainsi qu'on mène une guerre. On ne se bat pas avec des discours.
Comment pourrons-nous garder la confiance du peuple si vous sapez les décisions de justice?
Nous garderons la confiance du peuple avec des armes à la main. Parce que nous avons des hommes aux quatre coins de cette ville qui la défendent en ce moment même. Et que nous avons prises aux Anglais par la force.
Et le tout premier jugement rendu par un tribunal indépendant, tu le bafoues en décidant d'aller régler ça au peuple.
Eh oui, tu l'as pas vu.
J'ai à Ken Loach, je l'ai pas vu, j'ai le titre sur le bout de la langue. Mais
c'est
je ne sais plus.
Le vent se lève,
voilà. Oui.
Palme d'or 2006, et puis bah, voilà, j'ai placé ça parce que Ken Loach a remporté la dernière Palme d'or, celle de 2016.
Il a remporté au moins trois.
Oui,
c'est
oui,
sûr,
oui,
parce qu'il avait aussi London Freedom en 94, il me semble.
C'est un habitué, mais tu quasiment incollable sur les années. Hein, quand
95.
Même. Voilà. Ainsi s'achève ce blind test spécial Cannes. On pourra y rejouer chaque année, hein, de toute façon, puisque le festival a 70 ans et que ça fait donc de nombreux palmés.
Avez-vous remarqué qu'on tourne de moins en moins de films d'action actuellement?
Oui. Cinérama.
Le monde devient philosophique.
Minna ordinal scale ni mochu nandaro na.
Honto wa Kirito-kun mo issho ni yaritakatta njanai no?
Il faut bien se rendre à l'évidence, l'animation japonaise qui nous parvient est généralement accessible, pour être plus exact, proche des préoccupations universelles, même lorsqu'elle développe des univers complexes et ancrés dans l'histoire profonde du pays, à l'instar des œuvres de Otomo ou de Satoshi Kon. Mais il existe tout un pan de manga réservé non seulement aux ados, voire aux geeks, fans d'animes japonais, de BD et de jeux vidéo. Un langage codé, très évident pour certains, mais qui risque de laisser beaucoup de gens sur le carreau, sauf si on s'accroche vraiment. Alors, Sword Art Online en est un exemple frappant. À l'origine, il s'agit d'un ce qu'on appelait un light novels, un terme désignant des romans destinés aux ados, écrits là par Reki Kawahara. C'est un peu difficile à prononcer. Le succès considérable de ces films, marqué par un style simple et beaucoup d'illustrations, engendra une adaptation animée pour la télévision et en jeu vidéo sur console PlayStation. Alors autant dire qu'au Japon, il s'agit d'un véritable petit phénomène. En revanche, si la série fut diffusée en France en streaming, on ne peut pas dire que le succès fut totalement au rendez-vous. Alors on peut même trouver étrange que le long métrage qui nous concerne parvienne à se frayer un chemin dans les salles obscures. Alors pour les néophytes, Sword Art Online requiert une concentration de tous les instants. Alors pour simplifier la trame et les enjeux, l'action se passe en 2026, 2 ans après avoir été libéré du jeu de Sword Art Online, SAO, dans le film. Kazuto et ses amis survivants profitent tranquillement de la vie réelle. Mais un nouveau jeu, ou plutôt une nouvelle application, va modifier la donne. L'Ogma rend possible la réalité augmentée qui correspond à une modification illusoire de l'environnement, mais aussi de nos possibilités physiques et psychiques. Alors de ce changement découle un nouveau jeu, Ordinal Scroll, qui devient rapidement populaire au point de supplanter la réalité virtuelle passée de mode. Alors Kazuto, peu intéressé par la réalité augmentée, va néanmoins se plonger dedans lorsque d'anciens boss de SAO font leur apparition et d'autres fantômes ressurgissent. Alors derrière tout cela se déroule donc un plan diabolique afin de voler la mémoire des joueurs pris au piège. Mais dans quel but? Kazuto décide de découvrir la vérité. Alors si vous êtes déjà perdu à l'énonciation de ce que je viens de dire, alors c'est que ce type de production n'est pas pour vous. Si on s'accroche un peu à un scénario touffu et complexe, même aux ramifications existentielles assez simplistes, on peut prendre un plaisir à suivre ce manga live, bénéficiant d'un joli graphisme, sans néanmoins dénoter de la production ambiante. L'animation est un peu raide, hein, faute de moyens, on sent surtout que ce type de produit devrait davantage être distribué en DVD ou en VOD que sur grand écran, où les défauts visuels ne pardonnent pas. Les arrière-plans sont parfois bâclés et la colorimétrie pas toujours heureuse. Alors ce mélange parfois savoureux de romance et d'action sur fond de réflexion sur le réel et le virtuel ne manque pas d'intérêt mais finit par lasser, faute en grande partie à une surcharge de dialogue ne facilitant pas la compréhension de l'ensemble. Alors par rapport à des petits classiques comme Lane traitant d'un sujet similaire, Sword Art Online souffre une fois le dispositif mis en place à la manière d'un jeu vidéo, d'un manque flagrant d'enjeu. La frontière entre le réel et l'imaginaire est poreuse et donne lieu à de belles séquences où les personnages ne semblent plus distinguer le réel et l'imaginaire, surtout qu'il ne s'agit pas vraiment de virtuel, mais d'une réalité déformée, travestie. Hélas, il manque un vrai regard de cinéaste, une vision politique, voire sociologique, à ce dessin animé qui ne tient pas toutes ses promesses de départ. Et si on a bien suivi le récit, on se dit tout de même, une fois le générique de fin qui apparaît, tout ça pour ça. En même temps, le public visé est un public ado, qui a les codes, mais en fait, c'est assez simpliste. On croit être face à quelque chose de très très complexe, et puis, en fait, pas du tout.
T'aurais peut-être dû aller voir le dépléchin.
Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui ?
Il n'y a pas contrôler qui est qui.
Quoi, qui est qui ?
Bah quoi, qui est qui, quoi ?
Eh bien, qu'y a-t-il ?
Auriez-vous oublié que nous partons ?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
La semaine prochaine, tout le monde sera revenu dans les studios. On vous parlera de Gendou Identity Conspiracy et puis les films qui sont sortis et qui viennent de Cannes, Rodin et puis L'amant d'un jour de François Ozon.